Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cet épisode du podcast consacré au philosophe français Alain, pseudonyme d'Émile Chartier pour l'état civil, né en Normandie dans le Perche en 1868 et mort au Vésinet en 1951. Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cet épisode du podcast dédié au philosophe français Alain, pseudonyme d'Émile Chartier pour l'état civil, né en Normandie dans le Perche en 1868 et mort au Vésinet en 1951. Pour cet épisode, nous évoquerons la réception du freudisme par Alain. Lors de l'épisode consacré au malentendu qu'a suscité et continue pour une part de susciter Alain, nous avons déjà évoqué rapidement son refus de l'inconscient freudien. Cette opposition a scandalisé autant de ce qui a pu être une véritable freudomania, de la pré-seconde guerre mondiale jusqu'aux années 1970. Aujourd'hui, nous pouvons porter un jugement plus sain sur les apports du freudisme, en dépit d'une freudophobie tout aussi dommageable que la freudomania d'antan. À tout le moins, nous pouvons mieux évaluer la nature du rejet d'Alain et ce qu'il signifie pour sa propre philosophie. Sur l'inconscient, la position d'Alain est sans ambiguïté, il refuse absolument l'hypothèse freudienne, écrit Georges Pascal dans son commentaire classique sur l'idée de philosophie chez Alain. Il poursuit néanmoins, sans doute présente-t-il parfois son refus d'une manière nuancée, disant par exemple que c'est un parti qui est en somme raisonnable. Parti raisonnable, le freudisme ? Parti raisonnable et pourtant critiquable, le freudisme ? Étrange collusion des termes. Une chose est sûre, Freud présente une difficulté pour Alain, qui admet que la critique explicite de Freud est, comme il l'écrit dans Histoire de mes pensées, d'une difficulté supérieure. Il n'y a cependant pas d'hésitation, l'inconscient, le subconscient et le seuil de conscience sont, comme il l'écrit dans le même passage, des articles de philosophie simiesque, c'est-à-dire des catégories qui ramènent l'être humain à son animalité et prétendent penser l'être humain à partir d'un comportement animal. La philosophie de Freud, c'est la philosophie des singes. On aura reconnu dans ses articles, en effet, des grandes catégories de ce qu'on appelle la première topique de Freud. Mais Alain a-t-il seulement lu Freud ou se contente-t-il de critiquer sous le nom de freudisme la notion d'un inconscient psychique séparé de l'activité consciente de la pensée ? J'ai tendance à admettre les déclarations d'Alain lorsqu'il écrit dans le propos du 17 juillet 1922 qu'il a lu Freud. Étudiant les problèmes liés à la nature du signe et analysant à cette occasion les signes involontaires que l'homme produit sans les réfléchir ni les maîtriser, Alain déclare en effet « Je pensais à ces autres signes comme je lisais la psychanalyse de Freud ». La date de publication du propos confirme qu'il s'agit de la première traduction de Freud parue sur ce titre, la psychanalyse, fin 1920 dans la petite bibliothèque Payot. Le livre est également connu sous le titre « Introduction à la psychanalyse ». La sortie du livre avait constitué un événement intellectuel et mondain marquant si l'on en croit le long compte-rendu que Jules Romain consacre à l'ouvrage dans la Nouvelle Revue Française de janvier 1922. Lisons les pages savoureuses de Romain dans cette Nouvelle Revue Française à ce propos. Toute la saison dernière, Einstein a été chez nous furieusement à la mode. Philaminte et Bélise sont sans donner à cœur joie. Elles ne vous tendaient point l'assiette de petits fours sans vous mettre en demeure de choisir entre la relativité généralisée et la relativité restreinte. Et des gens qui auraient eu beaucoup de peine à définir le carré d'un nombre vous disaient d'un air désabusé « Maintenant qu'Einstein a démontré que tout est relatif, cet hiver si sera, je le crains, la saison Freud. Les tendances refoulées commencent à faire dans les salons quelques bruits. Les dames comptent leurs derniers rêves en caressant l'espoir qu'un interprète audacieux y va découvrir toutes sortes d'abominations. » Alain a probablement eu sous les yeux ces lignes. Il est proche de la NRF où il vient de publier 2 tomes de propos et Gallimard, l'éditeur et le fondateur de la Nouvelle Revue Française, NRF en abrégé, accorde dans le cours en 1922 ce label NRF à la revue d'Alain Les Libres Propos. On peut donc supposer qu'Alain a au moins été au courant du bruit freudien par ce biais. Dans le propos du 20 novembre 1928, Alain atteste du reste la pérennité de l'effet de mode car il note « l'inconscient est de cérémonie pour dîner en ville comme l'habit noir ». On retrouve la même comparaison qu'on avait déjà chez Jules Romain entre freudisme et dîner mondain. Ajoutons que, curieusement, Alain a laissé dans son journal des passages très critiques sur Jules Romain, après avoir lu son grand ouvrage « Les hommes de bonne volonté ». L'ouvrage est proprement assassiné à la toute première page du journal d'Alain. Comme quoi, il est parfois impossible de se rencontrer, même lorsqu'on critique, aussi bien chez Jules Romain que chez Alain, les mondanités intellectuelles qui entourent aussi bien la relativité d'Einstein que la psychanalyse de Freud. Curieuse non-rencontre. Pour revenir à cette prime lecture par Alain de Freud, on remarquera qu'elle n'est pas vierge de tout préjugé. Si Freud connaît un si grand succès en France, c'est que le public lettré est déjà prêt à recevoir un ouvrage sur un thème depuis longtemps familier aux philosophes en France, celui de l'inconscient. Aussi bien, comme le note Georges Pascal dans l'article qu'il a consacré au refus de Freud par Alain dans le colloque Alain Freud de 1990, ce n'est nullement le freudisme qui déclenche une réflexion sur l'inconscient chez Alain. Au contraire, c'est le refus de l'inconscient qui oriente la lecture d'Alain quand Freud lui passe entre les mains. On trouve des remarques sur la notion d'inconscient, mais cette fois-ci il parle de Poincaré, dans le propos du 28 juillet 1909, et aussi dans les lettres sur la philosophie première, un ouvrage écrit en 1911 et laissé inédit par Alain. On peut même remonter plus loin. Alain réfléchit à la question de l'inconscient très tôt, comme en témoigne une lettre à Élie Halévy en 1893. Il y évoque Léon Brunswick et sa critique pour la revue de métaphysique et de morale de l'ouvrage de Théodore Dédouy portant sur la philosophie de l'inconscient. C'est le titre du livre. On le voit, les philosophes français n'ont pas attendu le freudisme pour discuter de la question de l'inconscient. C'est pourquoi il faut faire attention lorsqu'on lit sous la plume d'Alain le terme « il ne parle pas forcément de Freud » lorsqu'il critique l'inconscient dit psychologique. Quelle est cette critique ? À vrai dire, quand on lit Alain, on s'aperçoit que son problème est plutôt la conscience que l'inconscient, et plus exactement que sa critique de l'inconscient provient directement de sa pensée de la conscience. La conscience sans réflexion. Écrit Alain dans le chapitre des idées et les âges, appelé « La conscience ». La conscience sans réflexion n'apparaît qu'à la réflexion. Autrement dit, l'inconscient qui serait cette conscience sans réflexion n'est qu'un produit de ma conscience, et il n'y a pas, pour employer une autre expression d'Alain, de pensée cachée. La plus faible conscience n'est un fait que dans la plus haute conscience, ajoute Alain. Si celui-ci refuse l'inconscient, c'est qu'il ne peut être saisi que par l'activité même de la conscience, d'où le paralogisme de l'inconscient. C'est vouloir, et là je cite Alain, que ce qui définit par ne pas penser soit encore une pensée. Ou encore, la bordure de la conscience, expression d'Alain, ce qui pourrait être une sorte d'équivalent du préconscient freudien par exemple, la bordure de la conscience donc, séparée du centre qui l'éclaire, n'est en rien concevable. On pourrait dire qu'Alain renverse le mouvement freudien, qui voit l'inconscient à l'œuvre dans notre pensée consciente, alors que pour Alain, c'est exactement l'inverse. L'inconscient est un effet de notre conscience quand elle explore ce qu'il appelle son bord obscur, qui n'existe pas indépendamment d'elle, mais au contraire, n'est que par cette conscience. Cela ne signifie pas que nous soyons toujours conscients de tout et toujours, quoique peut-être nous soyons toujours potentiellement conscient de tout et toujours, mais cela est une autre question qui relève de l'ontologie alinienne. En revanche, tout ce que nous sommes et tout ce dont nous sommes conscients est présent par la réflexion. Que devient alors l'inconscient en face de cette conscience lumineuse qui fait exister son propre crépuscule ? Alain répond assez simplement et assez directement à rien. L'inconscient n'est rien, il est néant du point de vue de la pensée. Ou bien encore, ce rien est un mécanisme du corps, c'est-à-dire un mécanisme de ce qui ne pense pas, comme le remarque Alain dans un propos du 30 juin 1923. Qui a parlé ? Qui a pensé ? C'est l'inconscient, sombre personnage, fétiche revenant. Maintenant, dans cet autre double que l'on nomme l'inconscient, où se trouve la faute ? Non pas principalement à dire qu'il agit et parle sans nous, mais plutôt à vouloir dire que ce personnage pense. C'est ici que tout s'embrouille, faute d'une description suffisante de la situation du penseur qui est celle de tout homme. Quand cet autre qui agit forme une pensée, c'est justement ma pensée. Cet autre est bien moi et toujours moi, nous ne sommes point deux. que j'agisse d'abord et que je pense sur mes actions et en quelque sorte sur mon être en train d'être, c'est la donnée. Mais que je prête encore une pensée à cet automate de façon qu'il prévoit, perçoive, délibère et décide sans moi, c'est mal d'écrire. Ce compagnon n'est pas un homme sans tête, mais sa tête, c'est la tienne. Ainsi, sans ta pensée, il ne pense rien. Sans ta volonté, il ne veut rien. Sans ton projet, il ne poursuit rien. Pur mécanisme sur quoi gymnastique et musique peuvent tasser, mais sans malice. Parce qu'il est sans pensée, c'est là le point. Ce texte que j'ai un peu accourci en éliminant quelques incises est particulièrement difficile, ne serait-ce que par la rupture de construction qui marque la fin du propos. Alors qu'Alain parle à la première personne, déclarant « cet autre est bien moi et toujours moi », il finit par passer à la seconde personne. Sa tête, c'est la tienne. Comme si par un mouvement qu'on ose dire freudien, Alain refoulait la confrontation avec sa propre pensée de l'inconscient. Les grandes lignes toutefois sont claires. D'une part, le refus de l'inconscient est le refus d'un autre moi. Je ne suis que moi et moi-même et moi seul suis le compagnon de moi-même. D'autre part, ce qui est autre en moi, ce n'est pas moi, mais mon corps mécanique qui agit. Sur ce mécanisme, ma pensée est pour ainsi dire en retard. J'agis d'abord, déclare Alain, et je pense sur mes actions et en quelque sorte sur mon être en train d'être. C'est une formule tout à fait remarquable et le mot qu'il ajoute à ce propos, c'est la donnée. Ce mot indique qu'il ne s'agit pas du reste forcément d'une critique directe de Freud, mais plutôt d'un certain bergsonisme, le bergsonisme du flux de conscience et des données immédiates de la conscience. Cette anticipation de l'action sur ma pensée, et donc, puisqu'agir c'est user de mon corps, cette avance de mon corps sur ma réflexion, est bien notre condition. Mais ne signifie pas que mon corps soit pensant sans moi ou pensant à ma place. Il ne me semble pas pour autant qu'on doive éliminer toute considération de la psychanalyse dans ce texte, Alain glissant d'un certain bergsonisme à un certain freudisme, sans du reste que cela signifie nécessairement directement Bergson et Freud. Je vois deux raisons pour réintroduire assez précisément une allusion à l'idée psychanalytique. D'abord, Alain accepte que cette situation d'une action en avance de mes pensées puisse créer un malaise, des difficultés, bref, qu'il puisse y avoir une sorte de relation traumatique entre le corps et l'esprit. Ici, on pourrait réintroduire la psychanalyse, qui est d'abord une intention de soin, une thérapeutique, et cela permet de comprendre la remarque d'Alain. La cure, ce n'est pas scruter l'intention comme une procès primaire, mais l'exercer non comme une pensée, mais comme une forme de discipline du corps. L'exercice de la cure, c'est donc gymnastique ou musique. Ensuite, et là aussi la correspondance avec la psychanalyse me semble possible, cet inconscient est sans malice, autrement dit, on pourrait dire sans pulsion perverse, sans intention en tout cas de faire le mal. Malice est à prendre ici, dans son sens initial, de méchanceté, inclination à nuire, mal faire, tandis que le sens moderne d'inclination à taquiner, à se moquer, justement sans méchanceté, sert ici à atténuer, pour Alain, la remarque. Alain ne critique donc pas seulement l'idée d'un inconscient double du moi, mais sa nature essentiellement déréglée et moralement intolérable, ce qui chez Freud est la fabrique même de l'inconscient. Dans un propos plus tardif de janvier 1931, recueilli dans le volume 2 de la Pléiade sous le numéro 522, Alain revient sur la question de l'inconscient mécanique corporel et développe sa thèse dans une autre perspective qui est aussi essentielle pour comprendre sa critique de la psychanalyse, le problème de la réinterprétation et sa relation à l'inconscient. On se rappellera que la première mention de Freud par Alain traite justement de la question du signe et de son interprétation. 1. Dans les disputes sur l'inconscient ou contre toutes les autorités établies, reconnues, je ne cède jamais un pouce de terrain, il y a plus qu'une question de mots, qu'un mécanisme semblable à l'instinct des bêtes nous fasse souvent parler et agir et par suite penser, cela est connu et hors de discussion. Mais il s'agit de savoir si ce qui sort ainsi de mes entrailles, sans que j'aie composé ni délibéré, est une sorte d'oracle, c'est-à-dire une pensée venant des profondeurs. On retrouve l'idée de fonction corporelle mécanique, Alain plaçant sa réflexion sous les auspices de Descartes, dont le nom est prononcé un peu plus loin dans le texte. L'inconscient, ce serait l'instinct des bêtes, comme il dit, c'est-à-dire une suite de réactions du corps nécessaires pour accomplir les fonctions de la vie et même accomplir l'aspect mécanique de la pensée. Ce qu'aborde cependant ce texte, c'est qu'Alain articule cette thèse de l'inconscient mécanisme au problème de l'interprétation d'une manière particulièrement originale. Ce mécanisme est-il, comme il dit, une sorte d'oracle que j'aurais à déchiffrer ? La question peut être prise au sens littéral, car Alain tend à assimiler Freud à un aruspis moderne. Nos interrogations sur l'inconscient ne seraient que la réédition d'une étude anthropologique qui nous pousse à interpréter de manière plus ou moins délirante le monde comme un monde de signes. Cependant, il y a plus. Cette tendance n'est pas seulement une pulsion archaïque de notre intelligence, elle est inévitable au présent même. « Par ma structure d'homme, écrit Alain encore, tous mes mouvements sont des signes et tous mes cris sont des sortes de mots. Dois-je croire que tout cela a un sens et traduit à moi-même mes propres pensées, pour moi secrètes, de moi séparées et qui vivent, s'élaborent, se conservent dans mes profondeurs ? Ces mécanismes, je peux penser qu'ils ont un sens, pour paraphraser Alain, qu'ils relèvent d'une signification et donc ultimement d'une interprétation, même si je n'ai pas délibéré de cette interprétation, même si je n'ai pas eu l'intention de signifier quelque chose. Il y a une signification à mes signifiants qui m'échappe. Cependant, et cela contrairement à l'interprétation freudienne, ce sens chez Alain n'est pas lié à une pensée refoulée, mais plutôt à une non-pensée. Les mouvements mécaniques d'un être humain sont des signes, c'est vrai, mais non pas par une signification refoulée ou latente, mais parce que c'est dans la nature d'un être humain, dans sa structure, comme dit Alain, de projeter du signe, d'envoyer des signes au monde et d'essayer de les recevoir. On pourrait dire que l'être humain est structurellement signifiant, qu'il le veuille ou non. Curieusement, nous sommes ici assez proches de la psychanalyse sur la question de l'involontaire du sens qui nous échappe. Toutefois, nous nous éloignons immédiatement car la divergence porte sur la valeur de l'interprétation elle-même. Alain, il n'est rien de plus commun que de prendre pour sa propre pensée ce qu'on a dit d'abord sans y penser, c'est bientôt fait. Il poursuit. Si donc quelqu'un veut me persuader que mes moindres paroles et les moindres signes que je produis involontairement sont mes pensées, il y réussira toujours, car ces pensées je les formerai aussitôt et je les aurai. Ce n'est rien d'autre que penser, comme dit Descartes, selon l'ordre des affections du corps, c'est se livrer aux passions. L'erreur des théories de l'inconscient est donc justement d'interpréter des signes qui n'ont pas vocation à être interprétés. Ce qui doit être objet d'interprétation, pour être plus précis de réflexion, ce sont ces signes qui sont l'expression de vraies pensées, délibérées et composées, pour reprendre les termes d'Alain, qui ajoute « Nos pensées, hors de notre extrême attention, ne sont rien. Elles périssent bien loin de croître et de prospérer. Il n'en reste que le squelette, ou si l'on veut, la coquille, c'est-à-dire les mots. Et les mots, même conservés, même jurés, même arrivant en bon ordre, sont stupides, sont le jugement qui les démonte et les reconstruit. Interpréter ces signes qui demeurent le produit non réfléchi de mon corps, dirait donc Alain, n'est qu'une forme de suggestion où mon corps produit des signes que je suis enclin à croire et qu'on me persuade de croire en effet comme une production de quelque chose qui serait ultimement mon inconscient. Pour cela, il y a pour Alain non seulement une erreur, mais une véritable faute morale, car je me livre et je suis livré par ce que j'aimerais appeler l'interpréteur d'inconscient aux passions. Il y a, de ce fait, comme l'a fortement affirmé Georges Pascal, une dimension proprement morale dans le refus du freudisme chez Alain. Il est moralement incorrect de croire à ces signes dénués de signification que produit ma structure humaine. Citons une fois encore Alain. Il faut refuser que de tels mouvements signifient des pensées. C'est la même chose que de refuser d'interpréter ses propres rêves. Mais plutôt rejeter au mécanisme de la nature ces prétendues pensées qui ne sont que des rencontres de signes. Et certes, l'on n'y peut pas toujours parvenir, car nous sommes bien fous dans les passions et bien loin de nous croire fous. Mais quel beau mouvement d'arrêt lorsque nous jugeons ce mécanisme comme vide de toute pensée. C'est le moment du rire. C'est le plus beau moment du rire. Et au contraire, quand vient le sondeur d'âme et l'interprète des songes qui me tient sous son regard noir et me condamne à avoir pensé tout ce que j'ai dit, alors c'est fini de rire. Ultimement, chez Alain, la critique de l'inconscient, c'est la critique de son manque d'humour. Pour en savoir plus sur les rapports entre Alain et Freud, on lira avec un grand intérêt les actes du colloque Alain-Freud qui ont été édités par Robert Robert Boone et dirigé par Paul-Laurent Assoun, Roger Bruyron et donc Robert Boone, aux éditions de l'Institut Alain, paru en 1992. Le volume contient non seulement les textes des contributeurs, mais le compte-rendu des discussions éclairantes et passionnantes du colloque dont l'ouvrage est tiré. On lira également les passages consacrés par Georges Pascal à la conscience dans son livre « L'idée de philosophie chez Alain », paru à Paris chez Bordas en 1970. Nous nous retrouverons dans 2 semaines aux alentours du 13 mars et nous continuerons notre réflexion sur le thème du freudisme chez Alain en inversant la perspective et en nous demandant pourquoi Alain montre une attention à l'égard du freudisme qu'il n'a pas à l'égard d'autres pensées de l'inconscient.